sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui,
Michel Husson, bonjour.
Michel Husson, vous êtes économiste et vous venez nous parler à votre tour de la mondialisation cette semaine et puis la semaine prochaine, après la reprise de l'émission que nous avions faite avec Dominique Plion, qui avait présenté finalement les grandes lignes de la mondialisation. Alors, c'est un problème qui est franchement, on ne peut pas dire d'actualité, mais en tous les cas qui pose question. Moi, je suis toujours un petit peu étonnée par rapport à ce mot de mondialisation, puisque quand j'étais petite, c'était un mot qui n'existait absolument pas. Mais j'aurais voulu savoir quelles étaient les idées qui sous-tendaient cette mise en place de la mondialisation. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire? Qu'est-ce que ça suppose comme vision du monde? C'est dans cette optique-là que j'aimerais que vous nous parliez.
C'est effectivement, il faut revenir un peu sur la genèse de la chose plutôt que de rester sur le terme, parce qu'il y a une polysémie, comme on dit, du terme qui renvoie à des aspects un peu différents. Alors, peut-être une manière de le prendre, parce que c'est celle qui est assez éclairante, c'est de raisonner sur les rapports nord-sud et de voir comment la mondialisation est petit à petit apparue et petit à petit émergée comme une espèce de théorie, de philosophie, alors qu'elle était au départ une réponse à des problèmes un peu immédiats. Alors, si on prend le timing, en gros, en 75, s'il faut donner une date vers le milieu des années 70, on a une rupture qui est double, c'est-à-dire à la fois dans les pays du Nord, on entre dans la crise, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une faible croissance, une montée, un démarrage du chômage. Mais on entre aussi, on a dans les pays du Sud une autre crise qui est celle du modèle dit de substitution d'importation. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui a bien fonctionné dans un grand nombre de pays et qui a assuré une croissance du PIB par tête, un développement relativement puissant et qui commence à toucher à ses limites et qui commence à connaître des problèmes. Donc il y a ce double basculement. Pendant une période très courte, qui est la période entre les deux chocs pétroliers, pour aller vite, c'est-à-dire en 75 et 79, on a eu un recours face à ce dérèglement général, on a eu un recours à des politiques qui étaient des politiques, comme on dit, keynésiennes, classiques, qui ont consisté dans les pays du Nord à relancer la demande. Et par exemple, en 76, Jacques Chirac, qui était Premier ministre, autant que je me rappelle, a annoncé un programme de soutien de la demande en créant une politique de logement, ce qui n'est pas vraiment dans l'air du temps de son programme économique actuellement. Et également, on s'aperçoit que les pays du Sud ont pris le relais de cette demande défaillante des pays du Nord et ont, d'une certaine manière, soutenu la conjoncture pendant ces périodes, ces années un peu transitoires. Et ce soutien s'est fait au moyen de l'utilisation d'excédents de liquidités qui existaient, c'est-à-dire au moyen d'une distribution presque forcée de crédits permettant à ces pays du Sud de fournir le rôle de demande relais. Donc, dans un premier temps, en gros, par rapport à cette crise, on applique des méthodes qui étaient les méthodes qui avaient bien réussi pendant l'après-guerre, enfin pendant la période des années d'expansion, les 30 glorieuses qu'on appelait ça en France, etc.
Et quand vous dites que le Sud finalement apporte des subsides d'une certaine façon, si j'ai compris, au Nord, c'est pas tous les pays du Sud, c'est pas forcément par exemple l'Afrique, c'est les pays pétroliers.
C'est pas seulement les pays pétroliers, évidemment, parce qu'il y a eu le recyclage, qu'on appelait le recyclage des pétrodollars, c'est-à-dire des ressources brutales qui leur arrivaient et qu'ils ont recyclées en les plaçant dans les pays du Nord, donc qui ont alimenté ensuite. Mais il y a eu une politique assez systématique d'offre de crédit, et presque, Suzanne George avait écrit un livre sur cette question en montrant à quel point la moindre banque américaine allait proposer ses services et presque imposer du crédit pour utiliser, recycler ces pétrodollars, effectivement, mais en même temps avec le résultat d'avoir une demande qui soutenait une conjoncture défaillante dans les pays du Nord. Donc les pays du Sud ont joué un rôle, mais très transitoire, de bouée de sauvetage. Et le vrai tournant qui apparaît dans les deux grandes zones de l'économie mondiale, c'est le tournant de 79, on pourrait dire, qui est un basculement total, c'est-à-dire où on s'aperçoit que, d'une part, ces recettes, ces politiques de relance traditionnelles ne sont pas à la hauteur de la crise, qui est une crise beaucoup plus structurelle, beaucoup plus profonde, et qui n'est pas seulement un problème de régulation, d'accompagnement de la conjoncture. Et d'autre part, on a un tournant qui est l'apparition de la crise de la dette, et qui est un changement assez brutal aussi des rapports Nord-Sud et avec le problème de la dette. C'est-à-dire que la décision très politique qui a été prise en 79 a été l'augmentation des taux d'intérêt par la Federal Reserve Bank. Ce que Duménil et Lévy, dans leur dernier livre, appellent le coup de 79, à juste titre, à savoir c'est une décision politique qui consiste à dire on va faire basculer les rapports entre le capital financier, le capital, disons, industriel, et aussi les rapports Nord-Sud. C'est-à-dire qu'on va assainir cette situation en mettant des taux d'intérêt très élevés, qui vont avoir... Alors, dans le cas des pays du Sud, on peut suivre, disons, la genèse d'une certaine forme de mondialisation, qui vont avoir pour résultat une crise de la dette, hein, c'est-à-dire une espèce de rapt sans précédent dans l'histoire, où en gros des pays s'étaient endettés de manière assez raisonnable à 5% et brusquement se voyaient obligés de rembourser à des taux de 15, 16, 17%.
Ma question est peut-être stupide, mais les taux étaient révisables.
Les taux étaient vraiment, effectivement, révisables. Sinon, il n'y avait pas de... Bon. Et donc, brusquement, ils ont été soumis à ça. Et donc, on a eu... La crise la plus frappante a été celle du Mexique en 82, qui s'était endetté, notamment parce qu'il avait lui-même profité du boom pétrolier, mais dans une espèce de logique perverse. Et donc, tous ces pays se trouvent dans la situation d'avoir à payer la dette. Donc, ils se trouvent, plutôt que récepteurs de capitaux, ce qu'ils avaient été jusqu'à présent, se trouvent en position d'émetteurs via le remboursement de la dette de flux de capitaux, enfin de flux de financement vers les pays du Nord. Et petit à petit, dans le cas des pays du Sud, on passe, disons, de problèmes empiriques qui consistent à dire comment faire pour obtenir les devises qui permettent de payer la dette, à un système qui devient un système complètement... qui apparaît comme un dogme complètement construit. Donc, quand vous êtes un pays du Sud où il faut rembourser la dette, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé de tourner votre économie vers tout ce qui lui permet de capter des devises, du dollar, pour aller vite. Donc, vous mettez la priorité à l'exportation et vous rétrécissez à l'intérieur, dans les dépenses budgétaires, dans l'utilisation de la dette publique, tout ce qui pourrait être concurrent à l'objectif de rembourser la dette, c'est-à-dire de payer les intérêts de cette dette qui ont brusquement été multipliés par 2 ou 3. Donc, vous tournez cette économie, vous privatisez en partie, vous réduisez les dépenses de l'État, et donc, vous faites, pour des raisons empiriques, c'est-à-dire chercher des devises, quelque chose qui va peu à peu être théorisé à travers les plans d'ajustement structurel et va être proposé au tiers-monde comme modèle de développement, entre guillemets, à savoir d'entrer dans la mondialisation, c'est-à-dire, ici, la mondialisation étant définie comme l'ouverture maximale au commerce international, le fait de donner la priorité aux exportations et le fait de tout faire pour attirer des capitaux, c'est-à-dire de supprimer tous les contrôles et toutes les exigences qui pouvaient être mises sur les entrées de capitaux. Et donc, du point de vue Nord-Sud, c'est ce tournant qui fait passer, disons, d'une crise de la dette, d'événements par certains côtés conjoncturels, bon, une volonté politique de renverser la situation, à un discours extrêmement élaboré et en plus avec une force institutionnelle. C'est-à-dire, c'est pas seulement un discours idéologique, mais c'est ensuite un discours institutionnel où on voit la transformation du rôle du FMI qui devient de prêteur en dernière instance, etc., devient un agent actif, imposant, de manière avec très contraignante, c'est-à-dire avec des menaces de rétorsion, imposant aux pays, étranglés par la dette, la mise en œuvre de politiques qu'on a appelées les plans d'ajustement structurel et qui sont la forme, disons, d'imposition de la mondialisation aux pays du Sud.
Et ce coup de 79, ça a été fait par qui ?
Ce coup de 79, c'est le résultat d'un tournant idéologique. Ça a été fait par la Federal Reserve Bank, c'est-à-dire qu'il y a la capacité, compte tenu de la position dominante des États-Unis, etc., sur les marchés financiers, de fixer de manière arbitraire le taux d'intérêt qui va être imposé. Enfin, d'une manière, on imagine mal. Enfin, je veux dire, rétrospectivement, ces événements ont été dilués, disons. Mais on imagine mal le côté absolument de coup de force. C'est pour ça que l'idée de coup est tout à fait légitime. De coup de force, disant d'un seul coup. Vous étiez endetté à 5%, d'un seul coup, moi, quasiment le gouverneur de la Federal Reserve Bank, c'est 15% maintenant. Hein, avec une capacité réellement extra-économique de dire c'est comme ça et de se servir de ce basculement comme un levier pour faire modifier, disons, l'agencement de l'économie mondiale.
Mais qui a le pouvoir dans cette réserve fédérale américaine?
C'est le gouvernement des États-Unis, de fait. Bon, il y a une vague pseudo-indépendance, mais c'est le gouvernement des États-Unis. Mais de manière plus générale, si vous voulez, c'est le gouvernement des grands pays européens. Et il y a eu un autre tournant plus idéologique, qui est qu'en 79, il y a eu un rapport à l'OCDE qui s'appelait le rapport McCracken, qui est, l'officialisation d'un tournant, l'abandon des politiques keynésiennes et le retour des politiques de type néolibéral. C'est-à-dire que, quand on prend l'histoire des néolibéraux, ils ont été battus complètement à la libération. Ils s'étaient maintenus comme une espèce de secte, la Société du Mont Pèlerin avec Hayek et compagnie. Et ils ont, de manière assez étonnante d'ailleurs, conservés, disons, comme se sont construits comme recours possible. Et ce basculement de la situation de l'économie fait que brusquement, en 79, il y a toute une série de choses qui convergent pour faire tourner la représentation des classes dominantes par rapport à la manière dont il faut gérer l'économie. Et alors, dans le champ politique, vous avez l'arrivée à peu près au même moment de Thatcher au Royaume-Uni en 79, puis de Reagan en 80, et puis un certain nombre d'affrontements sociaux, parce que c'est aussi, au fond, à l'échelle mondiale, c'est le rapport capital-travail qui est en cause, un type d'affrontement qui se manifeste dans un certain nombre de grèves symboliques. En France, par exemple, c'est la grande grève de la sidérurgie, hein, qui est dans un climat très dur, avec des manifestations assez violentes, avec le rôle des autonomes, de la police, enfin un truc très dur, où à chaque fois, ce grand affrontement marque un tournant et le passage à une politique complètement différente, c'est-à-dire où est privilégiée l'austérité salariale, la baisse des salaires avec des arguments sur la compétitivité, etc. Donc il y a un tournant total par rapport aux politiques, disons, d'État-providence. Et d'une certaine manière, ça ouvre une période dans laquelle on se trouve complètement encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que la mondialisation est à la fois quelque chose qui a à voir avec les rapports, disons, la configuration sociale entre capital et travail, et avec l'organisation de l'économie mondiale, de manière indissolublement liée, c'est-à-dire que, a priori, c'est des choses relativement différentes, mais historiquement, c'est quelque chose de très lié. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur des politiques néolibérales qui abandonnent l'État-providence, qui donnent l'austérité salariale comme objectif, et à l'extérieur, une ouverture, c'est-à-dire la création d'instruments de pression qui vont renforcer ce type de politique à l'échelle planétaire.
À l'IGREFM, des souhaits des hommes en compagnie de Michel Husson. Comme d'habitude, j'ai toujours un petit peu la comprenette difficile, un petit peu lente. Et ce que j'arrive pas bien à comprendre, c'est comment ça se fait que cette espèce de coup de force qui fait que brutalement la Réserve fédérale exige finalement des remboursements de dette de 15% alors qu'ils avaient demandé 5% au départ, comment ça n'a pas fait une espèce de levée de bouclier, comment les partis de gauche peut-être en particulier n'ont pas immédiatement compris quelle était la difficulté, le risque de cela et comment finalement on en est arrivé à la situation dans laquelle on est maintenant.
Parce que, un des phénomènes, c'est que il y a eu la perception qu'on était dans une période de crise où effectivement tout était un peu chamboulé, et donc la possibilité de prendre du recul, de se coordonner au niveau international, puisque ça se passait au niveau international, a été réduite et probablement on peut mettre ça aussi au compte d'un mouvement ouvrier qui était comment dire, insuffisamment internationalisée et peu organisée au niveau suffisant pour prendre en compte tous ces aspects-là. Et donc, la question se pose au niveau des pays du tiers-monde et par rapport à la dette. Et donc là, ça a été l'incapacité, malgré certaines tentatives de se coordonner au niveau international, et donc une espèce de soumission, de domination, de type impérialiste aux grandes puissances, et donc l'absence de volonté. Parce que il faut, le problème aussi est pas seulement nord-sud, hein, c'est-à-dire que dans le passage à cet ordre néolibéral, c'est pas quelque chose qui a été imposé par les pays du Nord ou pays du Sud. C'est-à-dire, parce que dans les pays du Sud, il y a eu un tournant aussi des classes dominantes qui étaient liées à l'épuisement de ce modèle qui était en crise et où ils ont eux aussi pris parti, disons, par opportunisme, quoi, utiliser cet élément de crise pour remodifier les rapports internes. Donc dans chaque pays, que ce soit au nord ou au sud, pour aller vite, il y a une articulation entre la question de la mondialisation et la question sociale. Et on peut pas comprendre, on peut pas parler de la mondialisation de manière indépendante de la manière dont elle est exploitée pour remettre en cause la question sociale. Donc à l'époque, on a un phénomène qui est à la fois un tournant dans l'organisation de l'économie mondiale qui est complètement imbriqué avec un tournant dans les rapports de force entre classes sociales, entre le salariat et capitalisme, quoi.
Question sociale, rapport de force, vous datez de Mathusalem, mais ça n'existe plus, non ?
Oh, si, ça existe toujours, parce que le postmodernisme a essayé de balayer, de dissoudre ces éléments. Mais quand on regarde, par exemple, l'histoire de France ou d'Europe dans les 20 dernières décennies, ce qui est, en France, il y a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que la gauche est arrivée en 81, donc un peu à contre-temps de ce passage vers des politiques libérales. Mais il y a une période assez courte de politique de gauche et un ralliement à des politiques, ce qu'on a appelé la pause, et ensuite le ralliement à des politiques classiquement néolibérales. Donc le tournant se fait en 83. Et ce qu'on s'aperçoit de manière assez claire dans ces années-là, donc c'est des points d'histoire, effectivement, mais des points d'histoire qui sont importants parce qu'ils ont marqué un peu toute la trajectoire dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a de manière imbriquée la première transformation, c'est sur la fixation des salaires, hein. C'est-à-dire c'est ce qu'on a appelé la désindexation des salaires, c'est-à-dire l'idée que les salaires ne devaient plus croître comme la productivité, que en gros peu à peu s'est instauré une norme où les salaires, quand ils étaient maintenus en pouvoir d'achat, c'était déjà pas mal et c'était ça le mieux qu'on pouvait espérer. Et on en est aujourd'hui là, c'est-à-dire que depuis cette norme s'est instaurée en 83 dans le cas français, enfin au milieu des années 80, et en même temps que cette norme s'est installée et s'est instaurée de manière volontariste des politiques d'ouverture, de déréglementation au mouvement de capitaux, de création d'instruments. D'ailleurs, Bérégovoy a créé de toutes pièces un marché financier dans le cas français. Et donc, on a une imbrication très forte de cette financiarisation et de mouvements de transformation des rapports entre capital et travail, avec par-dessus la chape de plomb, si on peut dire, de la mondialisation, où l'argument de la compétitivité est devenu absolument dominant. C'est-à-dire que ce qu'on voulait faire au niveau intérieur de toute manière devenait légitime en se prévalant de la pression de la mondialisation qui fait qu'on est obligé de faire ça et qu'il n'y a pas d'autre chemin et d'autres voies. Mais c'est une imbrication totale, c'est un projet social qui a trouvé le moyen de s'imposer par le biais de l'internationalisation sous une forme complètement exacerbée qu'on appelle mondialisation pour la différencier d'une forme plus classique et qui faisait moins pression sur les régimes sociaux intérieurs.
Donc vous voulez dire finalement que la mondialisation c'est presque quelque chose qui a été, on ne peut pas le dire vraiment complètement inventé pour berner le bon peuple, mais presque un petit peu quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on nous fait penser par les médias notamment, que la mondialisation est une chose nécessaire, absolument incontournable, quelque chose qui ne peut pas ne pas être, finalement pour apporter des mesures qui sont socialement presque répréhensibles.
C'est-à-dire, on peut pas avoir l'idée d'un espèce de complot machiavélique, etc. Parce que, en gros, la mondialisation consiste à libérer les forces naturelles du fonctionnement des entreprises, des groupes multinationaux. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un marché mondial sur lequel on peut librement circuler, produire dans n'importe quel pays, vendre dans tous les pays. Et donc, c'est une espèce d'aspiration spontanée de ces mouvements-là. Donc, c'est pas quelque chose qui a été suscité, inventé. Mais, en gros, de l'autre côté, du point de vue plus politique, dans l'organisation de cette économie mondiale, on a trouvé qu'il était devenu, au lieu de réguler ou de contrôler ces aspirations spontanées, ce que Keynes appelait les esprits animaux des entreprises, il fallait les libérer. Hein. Et donc, le choix politique n'a pas consisté à inventer l'aspiration des entreprises à se mondialiser, mais a consisté à dire on va leur permettre de le faire sans partage, parce que l'effet de ce modèle va peser dans le sens qu'on veut d'assainissement et de retour sur un certain nombre d'acquis sociaux qui avaient été gagnés par les salariés à travers le monde et qui étaient de mesures d'accompagnement plutôt positives pour le fonctionnement de l'économie, s'était peu à peu transformé en obstacle. Hein, c'est-à-dire que par exemple, la protection sociale, pendant toute une époque, a été analysée comme quelque chose qui donnait au capitalisme sa capacité à surmonter les crises, à se stabiliser, à croître de manière régulière. Et peu à peu, brusquement, le tournant 79, c'est un tournant complet de conception, consistant à dire non, la sécurité sociale, c'est plus, les aspects négatifs l'emportent, c'est-à-dire que c'est des coûts excessifs, ça pèse sur la rentabilité des entreprises, et donc au lieu de dire c'est un stabilisateur de l'économie, l'aspect principal, c'est un obstacle, un coût qu'il faut réduire au maximum. Et la mondialisation, c'est pour ça qu'il y a une espèce de cohérence dans ce modèle. La mondialisation, qui est l'aspiration naturelle des entreprises, a pour effet de peser dans le sens qui est désormais le nôtre, à savoir la réduction au maximum du coût du travail sous toutes ses formes.
Eh bien, écoutez, Michel Husson, malheureusement, les émissions sont vraiment trop courtes, apparemment. Donc, heureusement, vous avez accepté de venir la semaine prochaine pour continuer à nous parler de la mondialisation. Je vous remercie vivement d'être venu déjà cette semaine.
Merci à vous.
Et puis, donc, rendez-vous la semaine prochaine avec Michel Husson de 17h à 17h30 sur Aligre FM, dans Des Sous et des Hommes. Vous pouvez nous contacter au 42 rue de Montreuil, 75011 Paris, en spécifiant bien à l'émission Des Sous et des Hommes. Autrement, on a un site internet www.aligrefm.org, si j'ai bon souvenir. À l'intérieur de la grille des programmes, il y a une petite enveloppe juste sous le titre des souhaits des hommes, et je suis au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des émissions, les questions que vous voudriez nous poser, les titres des livres, des intervenants qui sont venus chez nous. D'ailleurs, j'ai oublié de signaler que Michel Husson a écrit un livre relativement récemment qui s'appelle Le Grand Bluff Capitaliste. À la semaine prochaine.